Un gynéco à votre écoute, une émission présentée par Joseph Lévy.
Bonjour mesdames, mesdemoiselles et peut-être messieurs qui seront intéressés par ce sujet. Nous abordons aujourd'hui le gros chapitre de la contraception. Il est tellement important, et je tiens à l'exposer clairement dans tous ses détails, que je le ferai en deux fois. Une émission aujourd'hui et le complément la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on entend par contraception et quelles sont les généralités que je peux vous exposer ? La contraception regroupe l'ensemble des méthodes, naturelles ou non, qui permettent d'empêcher momentanément une grossesse non désirée pour ne pas avoir éventuellement à recourir à une IVG, interruption volontaire de grossesse. La contraception, ce sont donc des méthodes réversibles, à la différence des méthodes de stérilisation masculine ou féminine que nous aborderons dans le deuxième volet que je vous ai expliqué, qui sont des méthodes définitives. Donc la contraception, quand elle a été mise au point, ça a été un moment de liberté énorme pour toutes les femmes, en couple ou seules, qui pouvaient maîtriser leur fécondité et ne pas subir une grossesse qui n'était pas désirée pour le moment. Un couple ou une femme seule peuvent désirer une grossesse, mais au moment qui leur convient le mieux. Ce n'est une obligation pour personne de faire une contraception. Certaines femmes vivent sans contraception, avec des petits moyens. Il faut reconnaître que dans l'ensemble, ce sont les femmes qui assument la contraception dans un couple et qui l'assument à leur manière, celle qui leur plaît le mieux, qui les perturbe le moins en tout cas. La plupart du temps, après 18 ans, souvent, la contraception est assurée par la pilule. La pilule est le number one de la contraception. C'est une contraception orale, hormonale. Même si on perçoit un net recul depuis quelque temps de la prescription de pilule, les femmes préférant d'autres méthodes car elles ont parfois, ces pilules, un effet sur leur corps. Après la prescription de pilule, c'est la prescription de stériliser qui vient en deuxième lieu, comme parfois après une première grossesse ou après une IVG. Ce stériliser même s'est adapté aux mœurs actuelles, puisqu'il existe des stériliser pour des nullipares, c'est-à-dire des femmes qui n'ont jamais mené de grossesse à terme, ou pour celles qui ont eu à choisir à mettre fin à une grossesse non désirée. En France, ces deux méthodes intéressent 80% des femmes sexuellement actives, c'est-à-dire qui conservent une vie sexuelle. On parlera aussi, pour terminer mon plan de discussion, de l'implant et de la pilule dite du lendemain. Retenons bien avant d'aborder ces différents chapitres que le choix existe entre plusieurs méthodes contraceptives et que c'est la femme seule, souvent, qui assure le plus souvent la contraception ou parfois en couple. Avant d'aborder ces différentes méthodes, un peu d'histoire ne nous fera pas de mal, d'historique plutôt. Qu'est-ce qui existait avant les moyens actuels ? Je ne reviendrai pas sur la ceinture de chasteté, qui était plus pour s'assurer de la fidélité de sa compagne et qui n'était pas une contraception. Je voudrais parler de l'ancêtre du stérilet, comme par exemple des corps étrangers mis dans les utérus, comme ça a été retrouvé sur des momies égyptiennes. Mais le plus romanesque ce sont les pierres, les cailloux mis dans les voies génitales des chamelles pour éviter toute grossesse inopportune pendant les longues traversées des caravanes dans le désert. Je ne vous parlerai pas non plus de l'abstinence programmée pour les périodes dites à risque, qui sont pour les plus audacieuses du 14 au 15e jour du cycle, mais il vaut mieux s'assurer plus largement en n'ayant pas de rapport de J11 à J15. Je ne vous parlerai pas non plus du coït interrompu ou coitus interruptus en latin, qui tout simplement peut s'appeler le retrait et qui consiste à sauter en marche, un euphémisme de prudence pendant le rapport. Enfin, encore moins la méthode des températures, qui n'est pas très pratique. Il faut prendre sa température tous les matins avant de mettre le pied par terre, parce que la température de base varie au cours du cycle, étant en dessous de 37 dans la première quinzaine du cycle, et à un décalage au moment où l'ovulation se fait, en augmentation de 3 à 4 dixièmes de degré. Cette méthode de température est utile quand on a recours aux inséminations artificielles ou quand on va faire une procréation médicalement assistée. Voilà. Quatre dates dans l'histoire sont à retenir. 1956, naissance du planning familial, née grâce à une association féministe militante. 1960, Pincus, un Américain, invente la première pilule contraceptive, mais elle était très dosée en œstrogène, avec des effets secondaires bien sûr. Troisième date, la loi Neuwirth, qui légalise l'usage des contraceptifs, contrairement au ministre Debré qui l'interdisait. 1975 enfin, la loi de Simone Veil qui légalise l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Chacune des méthodes que nous allons voir a ses contraintes, ses inconvénients, oubli de pilule par exemple, ou expulsion d'un stérilet. Chacune a ses effets secondaires et un taux d'efficacité variable. Aucune contraception n'est efficace à 100%. La vie sexuelle et affective n'est pas toujours un long fleuve tranquille et plusieurs événements peuvent intervenir pour mettre le grain de sable dans la contraception. D'autant que si l'on compte bien, assurer sans faille pendant plus de 35 ans une contraception peut relever de la gageure, n'est-ce pas, mesdames ? Alors, abordons le premier gros chapitre, celui de la pilule, qui permet de faire une contraception hormonale orale. La pilule, c'est un terme générique pour tout type de contraception orale. Et on distingue deux types de pilules, mais qui ont toutes le même effet, c'est de bloquer l'ovulation. D'abord, les pilules œstro-progestative. C'est une méthode hormonale combinée, composée de deux hormones dans un même comprimé, parfois deux ou trois comprimés de couleurs différentes dans une plaquette pour permettre que les taux d'hormones présents varient pour donner un cycle artificiel le plus proche possible du naturel. Quelles sont ces hormones ? Ben, ce sont celles que sécrètent normalement les ovaires, les œstrogènes et la progestérone, qui sont bien sûr fabriqués par des laboratoires pharmaceutiques spécialisés. Il est bon de savoir que ces pilules agissent à différents niveaux, qu'elles sont plus puissantes, bien sûr, que les hormones naturelles dont nous parlons. Elles agissent essentiellement par un blocage de l'ovulation. sans ovulation, pas de fécondation, etc. Accessoirement, par une atrophie de l'endomètre. Vous vous rappelez les cours d'anatomie que je vous ai fait ? L'endomètre est cette muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus et qui augmente d'épaisseur dans la deuxième partie du cycle, prête à accepter un œuf fécondé. Et bien là, cet endomètre, cette muqueuse, reste très fine et est inapte à la nidation d'un œuf fécondé par un spermatozoïde. Il en découle, à la fin de la plaquette, des règles dites de privation, qui sont des mini-règles, beaucoup moins abondantes, beaucoup moins longues que les règles normales, et de couleurs un peu différentes, plus marronnasses que rouges. Le troisième effet des pilules, pour expliquer leur action, ce sont les modifications de la glaire cervicale. Vous vous rappelez cette glaire cervicale qui est sécrétée dans l'endocol et qui permet l'ascension des spermatozoïdes jusque dans la cavité utérine, puis après dans les trompes pour rencontrer l'ovule. Et bien là, la glaire cervicale devient inapte à la pénétration des spermatozoïdes. Elle devient plus opaque, plus épaisse, et c'est un véritable mur de l'Atlantique, avec bien sûr les faiblesses du mur de l'Atlantique. Les taux d'œstrogène contenus dans ces pilules ont diminué au fil du temps. Rappelez-vous, Pincus, les œstrogènes étaient à 100 microgrammes, ou gamma, puis on est passé à des œstrogènes à 50 gamma, et maintenant on oscille entre 30 et 15 gamma pour certaines spécialités actuelles. Comment utiliser une plaquette de pilules ? Bien, quand on commence une contraception prescrite par votre médecin ou votre gynécologue, vous devez commencer la première pilule entre le premier jour et le troisième jour de votre nouveau cycle, par rapport au début des règles. Je vous rappelle qu'un cycle se compte à partir du premier jour des règles, même si c'est le soir, il compte pour le premier jour. Donc on prend une pilule par jour, dans l'ordre indiqué par les flèches qu'il y a dans la plaquette, une par jour pendant 21 jours, et on arrête au bout de 7 jours, au bout des 21 jours, et l'on a un arrêt de pilule pendant 7 jours. On recommence la plaquette suivante au bout de 7 jours, sans s'occuper de la durée plus courte des règles. 21 jours plus 7 jours égale 28 jours. Un cycle artificiel naît ainsi au fil du temps. Certaines pilules, certaines plaquettes plutôt, comportent 28 comprimés avec des comprimés inactifs à l'intérieur pour faciliter la prise régulière par certaines femmes oublieuses de pilules. Il faut conseiller aux femmes qui entament une contraception et qui n'ont pas encore le réflexe régulier de prendre la pilule pendant 21 jours, d'associer cette prise de pilule à un geste quotidien, comme par exemple se brosser les dents le soir avec la plaquette bien en évidence à côté de la brosse à dents. Deuxièmement, les pilules progestatives pures, par exemple Cerazette ou Microval, elles ne contiennent qu'un progestatif de synthèse et, à la différence des pilules dont on vient de parler, les œstroprogestatifs, ces progestatifs purs se prennent tous les jours sans interruption, toujours en commençant au début du cycle. Elles ne bloquent pas toujours l'ovulation. Par contre, là aussi, les autres moyens sont l'atrophie de l'endomètre et la glaire cervicale qui fait barrage à la pénétration des spermatozoïdes. Quelles sont les indications de ces pilules progestatives pures ? On les réserve aux femmes qui ont des antécédents personnels ou familiaux de phlébite des membres inférieurs ou d'accident vasculaire. Là, ce serait un drame d'y associer la pilule. Ou celles qui ont des pathologies qui contre-indiquent les œstrogènes, comme par exemple un état variqueux très important. Abordons maintenant quelques cas particuliers dans la vie de tous les jours. Que faire en cas de vomissement après avoir pris sa pilule? Il y a un risque de rejet, bien sûr, du comprimé. Si c'est le dernier jour de la plaquette, on ne s'inquiète pas. Le cycle sera plus court, mais on change ses habitudes ensuite ou on reste au schéma habituel 21+7. Sinon, on reprend dès que possible une autre pilule et on se protège jusqu'aux règles suivantes. Que faire en cas d'oubli de pilule la veille? Deux situations. Si le retard de la prise est moins de 12 heures, on prend le lendemain la pilule oubliée le matin et celle du soir habituelle. Si le retard de prise est supérieur à 12 heures, cela dépend bien sûr du type de pilule, plus ou moins fortement dosée en œstrogène. En tout cas, prudence. Pas de rapport sexuel, abstinence ou préservatif jusqu'aux règles attendues. Et s'il y a un retard de règles, eh bien test de grossesse. Si l'oubli survient en début de grossesse, prendre la pilule du lendemain dont nous allons parler tout à l'heure. Si l'oubli survient en fin de plaquette, moins de 7 comprimés restants, on peut recommencer une nouvelle plaquette dans la foulée de celle qui a été interrompue, sans faire le fameux arrêt de 7 jours. Enfin, petit sourire, parce que cela m'a été raconté par des patientes, quand vous perdez la pilule que vous venez de sortir de son blister et que c'est votre animal de compagnie qui l'absorbe, eh bien ne vous inquiétez pas, votre animal ne risque rien. Autre remarque intéressante aussi. Je voudrais insister sur l'intérêt de la pilule contraceptive qui diminue le flux menstruel, comme je vous l'ai dit. Eh bien, certaines femmes ont des règles très abondantes. Le fait de leur prescrire une pilule œstroprogestative va diminuer le flux menstruel et donc lutter contre les anémies ferriprives dont elles sont porteuses et ce va améliorer leur état général. Problème du poids. Pilule plus poids, souvent inculpée par les patientes, non, la pilule ne fait pas grossir, mais même si elle a bon dos, on peut dire qu'elle ouvre l'appétit, donc faire attention. Parlons de l'association pilule et vie sexuelle. Certaines femmes peuvent se plaindre d'une baisse de leur libido. C'est là le paradoxe de la pilule qui est censée éviter une grossesse non désirée et faciliter ainsi une sexualité libérée, qu'elle aboutisse à une baisse de leur libido, la fameuse libido dodo, qui me fait rire. Peut-être existe-t-il des conflits conjugaux sous-jacents. Proposez alors à ces femmes un autre type de pilule, ou alors leur proposer un stérilet pour changer. Autre problème, non, non, non et non. Il ne faut pas arrêter la pilule de temps en temps pour vérifier qu'on est toujours fertile. C'est une erreur et je l'ai très souvent entendu. S'il y a un désir de grossesse, autrefois, on conseillait aux patientes d'attendre entre 1 à 3 cycles pour entamer une grossesse, donc faire attention pendant 3 cycles. Ce n'est plus le cas de nos jours. On arguait de l'atrophie de l'endomètre pour dire qu'on risquait une fausse couche par mauvaise nidation de l'œuf. Je peux vous dire personnellement, et les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, que mon premier enfant, ma première fille est née et a été conçue, pardon, dans le cycle qui a suivi l'arrêt de la pilule de ma femme. Et j'étais pas inquiet. Attention, maintenant nous allons aborder un sous-chapitre important qui sont les interactions médicamenteuses possibles. Il y a un risque d'inactivation de la pilule par interférence de certains médicaments, comme les barbituriques, comme les anticonvulsivants, les antiépileptiques que l'on donne aux femmes qui font des crises d'épilepsie. Et certains antibiotiques, comme des pénicillines ou des cyclines, peuvent interférer et donc inactiver la pilule. Je passerai rapidement sur la phytothérapie pour les adeptes des tisanes à base de millepertuis ou de guimauve. C'est tout. Je voudrais aussi vous parler de l'absence de l'effet retard de la pilule sur l'enfant à naître. Aucune malformation et aucune grossesse multiple ne sont à craindre à cause de la contraception orale. Je veux insister aussi sur ce point-là, vous faire une recommandation importante. Pendant votre contraception, pensez à vous faire vacciner contre la rubéole si vous n'êtes pas immunisé contre celle-ci. Car si vous êtes enceinte et vous constatez par les prises de sang qui vous sont faites que vous n'êtes pas immunisé contre la rubéole, eh bien vous serez inquiète tout le reste de votre grossesse, le risque d'être contaminé par un enfant. Et par exemple, certaines professions sont exposées, comme les professeurs des écoles ou les tatas qui travaillent dans les crèches, les réfectoires, etc. Enfin, et encore enfin, ne faites pas de calculs rocambolesques, comme certaines enseignantes, attention, je vais me faire insulter, qui calculent leur début de grossesse dans l'année pour que la naissance ne les prive pas des vacances scolaires. C'est connu. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Même si vous êtes sous pilule, donc même pendant 2 à 3 plaquettes, si vous êtes enceinte sous pilule, en ayant même pris 2 à 3 plaquettes de pilule, ne soyez pas inquiète. Inutile de recourir à une IVG ou une interruption thérapeutique de grossesse. Continuez votre grossesse sereinement, sans angoisse. Il n'y a aucun risque de malformation de l'enfant à naître. Après un accouchement, si vous allaitez, 5 ou 6 tétés par jour suffisent à bloquer l'ovulation. Mais c'est trop aléatoire. Il vaut mieux envisager une contraception par progestative pure ou stérilée. Si vous n'allaitez pas, reprenez votre pilule dès le premier jour du retour de couche ou envisagez un stérilet dès que l'utérus aura repris ses dimensions normales après ce qu'on appelle l'involution utérine. On peut prendre 2 à 3 plaquettes de pilules à la suite, sans arrêt de 7 jours, l'une après l'autre, dans certains cas, comme les sportifs de haut niveau, pour leur entraînement intense et leur compétition à venir. Pour les femmes qui ont des concours importants à affronter en fin d'études, et enfin pour celles qui envisagent un voyage de longue durée. Mais attention au voyage en avion avec les risques thrombomboliques, donc les bas de contention, déambulation dans l'avion et bien s'hydrater. Les bienfaits de la pilule, nous en avons déjà parlé. C'est traitement de l'anémie chez les femmes qui ont des règles abondantes. Et on constate qu'il y a 2 fois moins de cancers du côlon, des ovaires et de l'utérus chez les femmes qui font une contraception orale. Quelle est la surveillance de la pilule? Outre l'examen général et l'examen gynécologique, il faut retenir les contre-indications, les antécédents de cancer du sein, les hypertensions instables et les antécédents de phlébite. Les surveillances biologiques, les graisses et sucs sont à surveiller car on constate une augmentation des triglycérides et du cholestérol pour les graisses et de la glycémie. Attention aux diabétiques qui sont mal équilibrés. Rappelez-vous que la pilule ne protège pas des infections sexuellement transmissibles. Attention aussi à l'association pilule plus tabagisme, mauvais ménage, quel que soit le type de pilule, surtout après 40 ans, risque de phlébothrombose, d'infarctus du myocarde. Autre conseil définitif pour finir ce chapitre, retenir que la fertilité diminue avec l'âge. Donc, ne pas se retrouver à trop tard, après de multiples plus tard, pour un projet d'enfant et ne pas régulièrement reporter une grossesse. Je vous remercie de votre attention et à la semaine prochaine.
Un gynéco à votre écoute, une émission présentée par Joseph Lévy.